Manque de moyens, manque de respect pour des hommes et des femmes qui partent parfois au travail, la peur au ventre. Depuis le début de l'année, 29 policiers se sont donné la mort. Une situation dramatique dans un contexte complexe pour les forces de l'ordre qui, plus est, régulièrement accusées de violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes journaliste et auteur d'un documentaire tout à fait édifiant, diffusé ce soir sur France 2 à 23h10. Un film dans lequel 7 policiers ont accepté de raconter à visage découvert la réalité de leur métier.
Quand je suis rentré dans la police, on était pas confronté à cette violence. Un policier qui vous dit qu'il a pas peur, c'est un menteur.
J'ai aucune explication qu'on puisse laisser la police nationale travailler dans des conditions comme ça. C'est énorme à quel point on nous laisse tomber, quoi.
Alors, ces professionnels de tout grade ont décidé de passer outre leur devoir de réserve. D'abord, c'est la première question qu'on se pose en visionnant le documentaire. Comment vous les avez convaincus de parler? La situation est à ce point dramatique, pesante, qu'ils ont besoin de s'exprimer?
Ben, si vous voulez, l'un des problèmes principaux des policiers, justement, c'est celui de la parole. La parole dans la police est interdite. Ils n'ont pas, ils ont une espèce de devoir de réserve qui fait que, bon, les syndicats parlent à leur place, les ministres parlent à leur place, mais eux-mêmes, ils accumulent comme ça au fil des mois, des ans, des nuits passées sur le terrain, des choses à dire. Et en fait, ils ne peuvent plus aujourd'hui les dire à personne parce que ce qui s'est passé au fil de ces 20, 30 dernières années, c'est une sorte de désocialisation du policier, c'est-à-dire que il s'est un peu coupé, le policier, du monde, de la vie, de ses même de ses amis peu à peu, parce que de ces sujets, il ne peut parler à personne. D'abord, personne ne le croit. Dans les dîners en ville, on le croit pas, ou bien on le croit pas, ou bien on le prend à partie. Donc tout ça fait, au bout du compte, une espèce de coupure qui fait que le policier se retrouve tout seul avec avec ses problèmes. Et puis là-dessus, il y a eu évidemment la vague terroriste qui s'est rajoutée, qui fait que en plus, il est rentré chez lui avec la peur au ventre. Il a commencé à avoir peur de ses voisins. Je voudrais pas en rajouter là-dessus, mais psychologiquement, au bout du compte, ça fait quelqu'un qui est un peu isolé du monde.
Justement, je me faisais cette réflexion en voyant votre reportage. À l'époque, justement, des attentats, au moment post-attentat, on va dire, on se souvient de gens dans la rue qui saluaient les policiers, qui les embrassaient parfois, qui les applaudissaient. Aujourd'hui, on a l'impression On a fait un virage à 180 degrés par rapport à ça.
Oui et non, parce que si vous regardez les sondages comme ça qui sont faits régulièrement, vous apercevez que 70-80% des Français aiment entre guillemets leur police. Là, c'est pas le sujet du film, c'est pas ni une déclaration d'amour, c'est plutôt une analyse de la haine anti-flic qui s'est développée
qui
dans 10-20% de la population. Faut pas non plus exagérer.
C'est une fraction infime de la population, mais qui fait très mal aux policiers.
Mais c'est cette partie-là qui est en face d'eux. C'est-à-dire que le policier, il est soit dans les quartiers, dans les cités où il se prend des pavés sur la gueule et des machines à laver qui tombent des toits tous les samedis, mais ça, on n'en parle pas très peu parce que ça se passe loin des médias. Soit il est dans la rue, là il y a un contexte social actuellement difficile, il est dans la rue et il se prend d'autres sortes de projectiles. Et une autre haine qui est une haine de la rue qui n'était pas forcément prévue et attendue, soit, et ça c'est la troisième couche qui se greffe là-dessus, depuis 2015 on en a quand même un certain nombre qui se sont fait tout simplement abattre comme des lapins dans la rue par les terroristes. Donc ça commence à faire beaucoup de haine accumulée, ce qui ne signifie pas qu'il y a une rupture avec les Français, parce qu'au contraire, tous les sondages le montrent, les Français sont plutôt contents de leur police.
Dans votre reportage, il y a parmi les témoignages celui de Maggie Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère, alors que vous finissiez le montage du documentaire. Elle a mis fin à ses jours avec son arme de service en novembre 2018. Est-ce que vous êtes posé la question de garder ce témoignage? Il est forcément bouleversant. Vous êtes dit qu'il est trop représentatif pour le couper.
Bon, d'abord, c'est vrai que Maggie, c'est la seule femme qui est dans ce documentaire. On a 7 policiers qui ont accepté de nous parler les yeux dans les yeux, sans foulard, sans se dissimuler sous leur nom, ce qui est quand même déjà énorme, ce qui signifie, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils avaient beaucoup à dire. On se retrouve à la fin du montage du film, donc à l'automne dernier, le film était entièrement tourné, le film était monté, les choix avaient été faits, on se retrouve avec ce drame qui est que Maggie Biskupski, qui est quand même la femme qui avait pris la tête un peu des policiers en colère en novembre 2016, je le rappelle, après un événement dramatique dans l'Essonne où des policiers avaient été pris à partie par des cocktails Molotov. Donc on se retrouve avec cette présence très forte. On a au contraire décidé de ne rien changer. C'est-à-dire que dans ce film, on n'en a pas fait on n'a pas transformé le film pour en faire une espèce d'héroïne. D'abord, je crois que ça aurait pas plu au sien, à son père, qui est un modeste Ardennais, à qui j'ai, à ce moment-là, quand même pris la peine de montrer le film. à ce moment-là, juste pour voir si lui validait nos options. Et ce qu'il m'a dit m'a encouragé dans le choix que nous avions fait. Il m'a dit, si vous aviez fait de Maggie le personnage principal de ce film, si vous aviez fait quelque chose, j'aurais dit non. Et là, au contraire, elle est un policier parmi les autres, et elle porte avec une passion qui est quand même énorme, et d'ailleurs qui dit toute la fragilité de cette femme aussi. Je veux dire, c'est qu'elle a fait son métier avec passion, elle a défendu les siens avec passion. Donc on a laissé Maggie là où elle était dans le film, et on n'a pas retranché un mot de ce qu'elle disait. On a juste ajouté, effectivement, pour que le téléspectateur le sache, qu'elle s'était donné la mort à un moment donné.
Le problème peut-être de ces gens qui prennent les policiers à partie, c'est qu'ils les voient comme un symbole, pas comme des individus. On a tendance à les voir comme des robocops, alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont peur aussi parfois, qui vivent avec cette peur quand ils vont au travail, d'où parfois peut-être des réactions de défense par rapport à des agressions.
C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est pas un film sur la police, c'est un film sur les policiers. Et donc je suis vraiment allé à leur rencontre et j'ai voulu écouter ces peurs. Et moi, ce qui m'a frappé dans les entretiens, donc on en a 7, il y en a au moins 3 dans les entretiens qui, à un moment donné, ont eu les larmes aux yeux.
Ah,
moi, ça m'a énormément frappé. C'est-à-dire que je me suis dit que ces hommes et ces femmes étaient effectivement les dépositaires de quelque part de toutes les misères du monde qui ramassent dans la rue toutes les nuits, tous les jours, de tous les maux de notre société, et qu'ils étaient bien seuls au front face à tous ces maux, puisqu'ils se sentent globalement lâchés ou instrumentalisés par les politiques, et assez peu soutenus en interne par des chefs qui font carrière. Et donc, effectivement, au final, ils sont avec ça sur les épaules. Il faut bien que ça sorte.
Il y a aussi un ras-le-bol des conditions de travail, il faut le dire, du rythme de travail. Il faut comprendre qu'un policier doit en général travailler 5 week-ends complets avant de s'en voir accorder un seul de repos. On imagine, par les temps qui courent, à quel point ça doit être compliqué d'être présent en tant que conjoint, en tant que parent, dans ces conditions. Enfin, c'est vraiment un métier, on l'oublie, qui est extrêmement dur.
Oui, je voulais aussi m'interroger là-dessus. Effectivement, les interroger là-dessus, c'est comment ils vivent. Ce sont pas des robots, en fait. On en a fait à un moment donné. On a cru que c'était des robocops. Je me souviens sous Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, on les a surhabillés, on leur a mis des espèces de tenues comme ça. Mais derrière ces robots, effectivement, il y a des hommes, des femmes. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on voit aujourd'hui, qu'on entende aujourd'hui les femmes des forces de l'ordre se manifester publiquement à ce point-là.
Une question quand même, Frédéric Ploquin, parce que les violences policières sont aussi notre réalité des samedis de manifestation. Quel regard vous portez sur ces gestes qui sont régulièrement filmés, diffusés aussi sur les réseaux sociaux?
C'est vrai que le fait, par ailleurs, d'être aujourd'hui filmé en permanence par les téléphones portables des manifestants, je ne sais pas si vous regardez à chaque fois, regardez bien les images, vous verrez, vous avez des téléphones portables au-dessus, comme
partout,
si c'était un match
sûr,
de foot. Comme si, en fait, on avait des pseudo-reporteurs et des vrais reporters aussi, quelquefois, qui cherchaient l'image qui va faire mal, qui va buzzer, etc. Comme au football ou comme au spectacle, ce n'est pas un spectacle. Ce sont des gens qui défilent dans la rue pour exprimer leur malaise social d'un côté, de l'autre, des forces de l'ordre qui sont censées protéger les institutions de la République et les biens privés. Et au milieu, se sont glissés effectivement ces derniers temps, ça on l'a bien vu avec les gilets jaunes, des gens qui sont là pour autre chose que pour manifester, qui sont là pour casser, pour détruire, et les policiers, leur boulot, c'est d'intervenir pour qu'ils ne le fassent pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Vous n'allez pas aller avec des matraques en guimauve face à des Black Blocs qui arrivent avec des espèces de banderoles renforcées, avec des genouillères, qui sont habillés comme les CRS, en fait. Si vous regardez bien, moi je les ai regardés, ils sont habillés comme les forces de l'ordre, et ils vont au combat, eux. Donc en face, vous pouvez pas dire aux policiers, maintenant, c'est guimauve et pourquoi pas des balles en pelote de laine que vous allez leur envoyer. Non mais dans ce cas, vous vous retrouvez le soir avec l'Arc de Triomphe, plus le Fouquet's, plus peut-être les pelouses de l'Élysée envahies, et vous dites quoi? Vous dites au pouvoir qu'il a été laxiste. Donc les forces de l'ordre dans cette situation, à ce moment-là, sont tout simplement les garantes de la République.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du film documentaire Police à bout de souffle, diffusé ce soir à 23h10 sur France 2. Merci.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains.